Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 7 février 2025. Dans l'est de la RDC, Bukavu se prépare à une attaque du M23, tandis que l'ONU dit craindre une extension du conflit au-delà des frontières du pays. Ici à Washington, les ressortissants congolais battent le pavé pour protester contre l'agression du M23.
Nous sommes venus ici pour amener un mémo que nous allons présenter et déposer au Capitol Hill et un autre mémo que nous allons déposer à la Maison Blanche.
Junior Bonpetit, président du mouvement Congolese for Trump, nous dira davantage sur la mobilisation des Congolais dans la partie magazine. Le Somaliland a voté pour son président, affirmant sa démocratie malgré l'absence de reconnaissance internationale. La CPI condamne les sanctions du président américain à l'encontre de son personnel. Donald Trump reçoit aujourd'hui le premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU acceptent de lancer une enquête sur les exactions dans l'est de la RDC alors que la capitale de la province du Sud Kivu, Bukavu, se prépare ce vendredi à une attaque imminente du M23 et de ses alliés rwandais, Alexandrine Olugnon.
Selon des sources sécuritaires, humanitaires et locales, le M23 et les troupes rwandaises étaient ce vendredi à plusieurs dizaines de kilomètres à l'aéroport de Kavumu, situé à une trentaine de kilomètres de Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. La population se prépare dans la précipitation et la peur à une attaque, certains cherchant à fuir vers la frontière rwandaise. La principale banque de la ville est restée fermée ce vendredi, entraînant bousculades et files d'attente au guichet, d'autres banques prises d'assaut. Plusieurs établissements scolaires et universitaires ont annoncé la suspension des cours. Lors de son premier meeting public jeudi à Goma, le M23 a assuré vouloir libérer tout le Congo. Le Burundi, de son côté, qui soutient l'armée congolaise contre le groupe armé, a décidé de l'envoi d'un bataillon supplémentaire. Réuni en session extraordinaire à Genève, le Conseil des droits de l'ONU a décidé de lancer une mission internationale chargée d'examiner les exactions commises par toutes les parties dans ce conflit. Présent à la rencontre, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a appelé le Conseil à tenir le Rwanda responsable de ces crimes. L'ambassadeur rwandais à Genève, James Ngango, a lui assuré au Conseil que suite à la chute de Goma, de nouvelles preuves ont émergé concernant une attaque imminente de grande envergure contre le Rwanda. Un sommet conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe est prévu à Dar es Salaam vendredi et samedi, jour où Félix Tshisekedi et Paul Kagame y sont annoncés.
La base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire le 20 février lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. Le 31 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé la rétrocession du camp du 43e Bima, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, une commune d'Abidjan. Elle intervient conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique, qui se veut moins visible et qui se déploiera selon les besoins des pays concernés. Le président de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, a rejeté jeudi les accusations de l'opposition sur la fin de son mandat qu'il fixe en septembre, non en février. La Cour suprême a confirmé cette date, contredite par son rival, Domingos Simoes Pereira. Élu en février 2020, Embalo avait vu sa victoire contestée par Pereira, qui a perdu un recours judiciaire. Il affirme pouvoir rester en fonction jusqu'à l'investiture d'un successeur et qualifie la controverse de théâtre. Aucune date d'élection n'a encore été fixée. Les législatives anticipées, prévues en novembre 2024, ont été reportées indéfiniment. Monsieur Embalo a dissous le Parlement en décembre 2023 après des violences qu'il a qualifiées de tentatives de coup d'État. Le Somaliland a voté mercredi pour élire son président, clamant son sens démocratique au moment où sa quête de reconnaissance internationale secoue la corne de l'Afrique. Le point avec Rosine Monezero.
Les résultats complets attendus la semaine prochaine se joueront entre les deux favoris, le président sortant Moussé Biyi, 76 ans, au pouvoir depuis 2017, et le chef du principal parti d'opposition, Wadani, Abdirahman Mohamed Abdoulaye, dit Iro, 68 ans. Le scrutin s'est clos peu avant 18h30 local pour certains des 1,22 million d'électeurs. Le Somaliland a déclaré unilatéralement son indépendance en 1991, alors que la République de Somalie sombrait dans le chaos après la chute du régime militaire de l'autocrate Siad Barre. Mais il n'est reconnu par aucun pays, ce qui le maintient dans un certain isolement politique et économique, malgré sa situation à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, reliant l'océan Indien au canal de Suez. Sa quête de reconnaissance est depuis 10 mois au cœur d'une profonde crise diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie, avec qui le gouvernement somalilandais a signé un protocole d'accord controversé. Le texte, qui n'a jamais été rendu public, prévoit la location de 20 km de côte à l'Éthiopie.
En Tunisie, des troubles ont éclaté à Sousse de la nuit de jeudi à vendredi après qu'un homme de 26 ans, en conflit avec la police, a tenté de s'immoler devant un commissariat hospitalisé à Tunis. Il est dans un état critique. Selon le parquet, il cherchait à récupérer une somme d'argent confisquée pour suspicion de consommation de drogue avant de revenir et de s'enflammer. Des jeunes ont ensuite attaqué le commissariat avec pierres et fumigènes avant de disperser. Ce type d'acte fréquent en Tunisie depuis l'immolation de Mohamed Bouazizi en 2010, qui avait déclenché la révolution. Fin janvier, un autre homme s'était également immolé à Tunis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour pénale internationale a vivement condamné ce vendredi les sanctions prises à son encontre par le président américain Donald Trump, des sanctions qui ont déclenché les protestations de l'ONU comme de l'Europe. Le point avec Mohamed Oumfa.
Le président américain, qui reproche à la CPI d'avoir mené des actions illégales, a signé jeudi un décret interdisant notamment l'entrée aux États-Unis à ses dirigeants, employés et agents. Le décret prévoit également de geler tous leurs avoirs détenus dans ce pays. Israël s'est félicité de cette décision. La CPI n'a aucune légitimité, a réagi le chef de la diplomatie israélienne. Dans un communiqué, la CPI condamne ce décret qui vise, selon elle, à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial. Nous demandons aux États-Unis de revenir sur cette mesure, a affirmé une porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Les sanctions prises par le président Trump contre la CPI augmentent le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menacent de miner l'état du droit international, ont dénoncé ce vendredi 79 parties à la CPI. En tant que pays hôte, nous avons la responsabilité de garantir le fonctionnement sans entrave de la Cour pénale à tout moment et nous continuerons à le faire, a déclaré le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.
Donald Trump reçoit aujourd'hui le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba pour des entretiens à la Maison-Blanche. Les détails avec Dilly Dico.
Tokyo ne veut pas être la cible d'attaques commerciales comme celles lancées vers le Canada, le Mexique et sans doute bientôt l'Union européenne, des régions et pays avec lesquels les États-Unis accusent un déficit commercial. C'est aussi le cas du Japon. En 2023, les États-Unis affichaient un déficit de 72 milliards de dollars dans les échanges de biens avec le Japon. Il serait merveilleux si nous pouvions affirmer que nous travaillerons ensemble pour le développement de cette région du monde et pour la paix, a déclaré à Tokyo Shigeru Ishiba, premier ministre japonais, avant son départ. Lors de ce premier sommet entre les deux dirigeants, le japonais pourrait proposer d'augmenter les importations de gaz naturel américain, selon les médias nippons. Cela serait gagnant-gagnant pour les deux parties. Il peut également faire valoir que le Japon a été en 2023 la première source d'investissement direct étranger sur le sol américain. La sécurité dans la région, des visées de la Chine sur Taïwan à la menace nord-coréenne font aussi partie des priorités. Le Japon accueille environ 54 000 militaires américains et s'inquiète des ambitions territoriales de Pékin.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra en Israël et dans plusieurs pays arabes à la mi-février, a indiqué un responsable du département d'État. Ce déplacement au Moyen-Orient sera son premier depuis la proposition controversée du président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza et de prendre le contrôle de l'enclave pour en faire une riviera du Proche-Orient. La France accueillera mercredi à Paris une réunion diplomatique sur l'Ukraine, rassemblant notamment plusieurs ministres des Affaires étrangères. de l'Union européenne, une rencontre potentiellement élargie aux États-Unis et à l'Ukraine, a affirmé la diplomatie française ce vendredi. La conférence diplomatique réunira les pays du format de Weimar, France, Allemagne, Pologne, ainsi que le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Et puis l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est fait poser ce vendredi à son domicile le bracelet électronique auquel il a été condamné dans l'affaire dite des écoutes. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Alexandrine Ollognon.
Les prix du cacao devraient chuter de près d'un tiers d'ici à la fin de l'année 2025, selon un sondage réalisé par Reuters auprès de 11 négociants et analystes ce vendredi. Les prix du cacao s'éloignent ainsi du record de 2024 grâce à une augmentation de l'offre même au-delà de l'Afrique de l'Ouest et à une réduction de la demande en réponse aux prix élevés. Les prix alimentaires mondiaux ont baissé de 1,6% en janvier par rapport à décembre, selon la FAO. Cela est essentiellement du fait de la baisse des cours mondiaux des huiles végétales, du sucre et de la viande. L'indice des prix calculé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a baissé de 6,8% pour le sucre en janvier par rapport à décembre. Les importations mondiales de blé devraient diminuer cette année en raison du ralentissement de la croissance économique chez les principaux acheteurs, de l'appréciation du billet vert et de l'augmentation de la production céréalière locale, ce qui exercera une pression sur les prix malgré des stocks mondiaux qui atteindront leur niveau le plus bas en 9 ans, selon les négociants et les analystes.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football, Samuel Eto'o porte plainte au TAS contre la CAF.
Oui, le président de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o, a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport, au sujet du refus de l'instance africaine de football de valider sa candidature au poste de membre du comité exécutif de la CAF en mars prochain lors de l'Assemblée générale élective de l'instance. L'information est du site Foot Afrique qui précise que Samuel Eto'o n'est pas le seul à saisir l'instance judiciaire sportive. Foot Afrique cite aussi Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, un opposant à Patrice Motsepe, seul candidat à sa réélection à la tête de la CAF. Guy Blaise Mayolas avait été suspendu en 2015 par la FIFA.
Athlétisme, le président des Mondiaux 2025 veut faire oublier les tribunes vides des Jeux Olympiques de 2020.
Oui, le président du comité d'organisation des Mondiaux d'athlétisme qui vont avoir lieu au stade olympique de Tokyo du 13 au 21 septembre prochain promet d'attirer des centaines de milliers de spectateurs pour oublier les tribunes vides des JO 2020. Vous rappelez qu'en 2021, après une année de report, les JO de Tokyo se sont tenus, mais dans un huis clos imposé par la pandémie de COVID-19 qui a rendu le spectacle sportif silencieux et bien morne.
Football américain, le quarterback vedette des Buffalo Bills, Josh Allen, a été désigné jeudi meilleur joueur MVP de la saison de NFL, une saison qui se termine dimanche par le Super Bowl.
Oui, Josh Allen, qui remporte pour la première fois ce titre à 28 ans, a devancé de peu un autre quarterback, Lamar Jackson, qui évolue au Baltimore Ravens et a déjà été élu MVP à 2 reprises en 2019 et 2023. Les Bills, une franchise qui a réussi une brillante saison régulière, mais a une nouvelle fois buté sur les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en play-off. S'il n'a pas remporté le titre de MVP cette année, contrairement à 2018 et 2022, Mahomes aura la possibilité de gagner dimanche prochain à la Nouvelle-Orléans son 4e Super Bowl, le 3e de suite, ce qui n'a jamais été fait par une équipe de la NFL. Les Chiefs auront face à eux les Philadelphia Eagles, amenés par le quarterback Jalen Hurts, mais aussi le running back, le coureur donc, vedette Saquon Barkley, qui a pris la 3e place jeudi pour le titre de MVP, derrière Allen et Jackson.
Page des sports VOA Afrique, signé Bagassi Koura.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des Congolais vivant aux États-Unis ont protesté aujourd'hui ici, dans la capitale américaine, contre la guerre que mènent les rebelles du M23 et le Rwanda dans l'est de la RDC. Ils appellent à des sanctions pour mettre fin aux atrocités dont sont victimes leurs frères et sœurs dans leur pays. Eddie Sango a joint l'un des manifestants, le président du mouvement Congolese for Trump, Junior Bompeti.
Nous sommes venus protester ce qui se passe dans l'est de notre pays, en RDC, à Goma précisément, au nord Kivu, où il y a la 1e agression rwandaise qui sème désolation, mort, qui tue les hommes, les femmes, viole, et il y a plus d'un million de Congolais, de nos compatriotes qui vivent à la belle étoile. Et nous sommes venus pour dénoncer cette 1e agression.
Qu'est-ce que vous attendez exactement des autorités américaines? Est-ce que vous allez leur soumettre vos desiderata?
Ils connaissent ce qui se passe au Congo. Nous sommes venus ici pour amener un mémo que nous allons présenter et déposer au Capitol Hill et un autre mémo que nous allons déposer à la Maison Blanche, envoyé au président Trump avec des propositions concrètes et qui s'alignent, n'est-ce pas, avec la vision du pays portée par Madame Thérèse Kiyakomba, notre ministre des Affaires étrangères.
Oui, vous faites cette marche la veille d'un sommet prévu à Dar es Salaam entre le président Tshisekedi et Kagame pour le compte de l'EAC et la SADC. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là aussi?
D'abord, nous voulons qu'il y ait fin des hostilités, arrêter la guerre parce qu'il y a trop de morts, et stopper les tirs parce que les Congolais ont besoin de la paix. Nous méritons la paix. Ça, c'est la première étape que nous attendons de ce sommet. Et la deuxième étape, c'est que nous allons continuer pour finir cette histoire une bonne fois pour tout. Parce qu'il y a eu plus de 10 millions de Congolais. Nous sommes victimes de nos minéraux. Et les minéraux doivent être une bénédiction pour nous, non payer les prix de sang du Congolais. Donc, c'est une continuité de ce qu'on a commencé. Les Congolais de tous bords, de tout âge, est réveillé pour que nous puissions enfin vivre dans la liberté. Et nous sommes un peuple paisible, nous sommes un peuple hospitalier. Tout celui qui veut vivre au Congo est le bienvenu, vivre dans la paix et dans la convivialité avec le peuple autochtone. Donc c'est un travail de continuité et tout Congolais, partout où nous sommes éveillés pour finir avec cette guerre.
Est-ce que vous faites quelque chose, vous, les Congolais de la diaspora, pour ce qui se passe en RDC?
Effectivement, nous faisons quelque chose. Personnellement, nous sommes du groupe qu'on appelle Congolese for Trump. Nous avons demandé aux Congolais américains de voter pour le président Trump et tous les républicains. Et nous sommes en train de faire un travail. Mais ce n'est pas un travail seulement pour nous, les Congolais, mais nous demandons à tous les Congolais dans l'ensemble. Parce qu'on ne peut pas oublier que les États-Unis, lorsqu'il s'agit de la politique extérieure, ils sont tous unis. Nous, les Congolais aussi, lorsque le pays est dans le feu, on tue, il faut que nous venions ensemble. Nous demandons aux Congolais de prendre l'action. C'est que chaque Congolais, démocrate ou républicain, de contacter vos représentatifs, les congressmen et les sénateurs de votre région. Nous avons un objectif de faire 10 000 appels dans 10 jours pour qu'ils puissent être secoués et ramener des sanctions qu'il faut au Rwanda.
Junior Bompeti, président du mouvement Congolese for Trump.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les groupes d'aide rapportent que la violence sexuelle est une menace constante pour les femmes dans la région du Darfour, au Soudan, mais les réfugiés avec lesquels la VOA s'est entretenue affirment que c'est aussi un problème pour celles qui ont fui la région. En provenance d'un camp de réfugiés situé à la frontière tchadienne avec le Darfour, Henry Wilkins se penche sur le phénomène du viol par le bois de chauffage. Son reportage est relaté par Michel Joseph.
À la frontière entre le Tchad et le Darfour, des réfugiés s'aventurent dans la brousse pour ramasser du bois de chauffage. Les femmes témoignent qu'elles parcourent parfois plusieurs kilomètres à la recherche de branches ou de racines d'arbres à brûler pour la cuisine. Mais ce que l'on appelle le viol du bois de chauffage est un phénomène bien trop courant ici. Amina, une réfugiée, raconte qu'elle était en train de ramasser du bois lorsque son groupe a été approché par des hommes armés de couteaux et de haches. Suivons Amina.
Nous nous sommes enfuis. Ils ont attrapé l'une d'entre nous. J'ai été blessée à la taille, mais je me suis enfuie.
La VOA a changé les noms et caché l'identité de toutes les femmes interviewées dans ce rapport pour les protéger des représailles. Les agressions sexuelles contre les femmes qui ramassent du bois de chauffage sont un phénomène courant dans les camps de réfugiés, selon les chercheurs. Pour Amina, il n'y a pratiquement pas d'échappatoire à la menace de la violence sexuelle. Avant de fuir ici, elle a vu d'autres femmes se faire agresser sexuellement par des membres des forces paramilitaires de soutien rapide chez elle, au Darfour. Écoutons encore Amina.
Ils ont battu et harcelé les gens. Ils ont violé et tué. J'ai vu ce qui est arrivé à des filles devant moi et à des vieilles dames.
Les groupes de défense des droits disent avoir enregistré des dizaines de viols de femmes par les milices associées à RSF au Darfour. Fatoumata, une réfugiée, dit qu'elle et sa fille ont été victimes des FAR.
Ils m'ont violée. Ils ont violé ma fille et elle est morte. Nous ne dormons pas la nuit parce que nous avons peur qu'ils viennent nous tuer. C'est un cauchemar qui ne s'arrête pas. C'est un cauchemar qui ne s'arrête jamais.
Pour ces femmes, que ce soit dans les broussailles, à l'extérieur du camp ou dans les maisons qu'elles ont fui au Darfour, l'ombre de la violence sexuelle plane toujours.
De la culture, les tenues Made in Sénégal connaissent un réel succès dans ce pays depuis quelque temps. Les stylistes et tisserands locaux veulent conquérir le marché de la mode malgré la difficulté d'accès à la matière première. Davantage avec Dili Diko.
Fatima Ba est fondatrice de la marque d'habillement So Fatou qui connaît un véritable succès au Sénégal. Ces designers de tenues Made in Sénégal emploient une vingtaine de couturiers dans sa boutique du centre de Dakar. Écoutons Fatima Ba, fondatrice de la marque So Fatou.
J'aurais pu faire comme beaucoup d'autres marques, aller juste à l'étranger, commander ce dont j'ai besoin, une femme jurable, je ramène ici et je vends. Mais ça ne crée pas d'emploi, ça n'a pas d'impact social, ça n'a pas d'impact sur le développement du pays. Et surtout, ça n'élève pas notre niveau. Parce que en fait, je pense que ça, le grand défi, c'est d'élever notre niveau en matière de fabrication et arriver également à faire localement. Les choses, par exemple, que je porte, c'est du coton du Sénégal. Ça a été cultivé ici, filé ici, tissé ici par Aïssa John. Et ensuite, on en a fait une tenue. Mais c'est un grand défi parce qu'aujourd'hui, ça, le mètre me coûte 10 000 francs.
So Fatou a réussi à s'imposer avec des vêtements faits localement. Robes, chemises, pulls et voiles, les Sénégalais sont séduits. À nouveau, Fatima Ba.
C'est une réalité aujourd'hui, les Sénégalais aiment le Made in Sénégal, les Sénégalais croient au Made in Sénégal.
Désormais, les vêtements Made in Sénégal font partie du quotidien, mais les articles de So Fatou s'adressent pour l'instant à une classe sociale aisée. Massali Khan est une cliente de So Fatou.
Très souvent, c'est le vendredi seulement, je mettais les tenues africaines, mais les autres jours, je m'habillais parce que j'avais des réunions, des voyages et tout. Et là, avec les tenues So Fatou, tu peux être dans les réunions, dans les missions, dans les conférences et tout. Et ça va toujours sortir de l'ordinaire.
Omar Nyang, un couturier de 51 ans qui propose des boubous tradis modernes dans un marché de Dakar, explique que son chiffre d'affaires a augmenté de façon considérable ces dernières années.
Il y a quelques années, on ne mettait les tenues Made in Sénégal que pendant les fêtes religieuses et après, on les rangeait dans les armoires. On préférait mettre des pantalons en jean, entre autres. Mais maintenant, nous n'avons plus ce complexe de mettre les tenues confectionnées localement. L'une des raisons, c'est que beaucoup de figures politiques qui mettaient des cravates et des costumes occidentaux ont adopté le style Made in Sénégal. C'est le cas du Premier ministre Ousmane Sonko qui a fait la promotion des tenues africaines et aussi le président Diomaye Faye qui a adopté ce style, de même que le président de l'Assemblée nationale.
Malgré la demande, l'industrie textile sénégalaise peine à s'établir. Les obstacles sont nombreux pour les fabricants. Aïssa Dion est la fondatrice de Aïssa Dion Tissu.
Alors il se trouve qu'on a quand même une problématique d'approvisionnement en fil, ce qui fait que l'espérance de produire environ 30 mètres par jour par métier, c'est difficile parce que nous n'avons pas encore accès à du fil de coton au Sénégal. Nous sommes obligés d'importer du fil d'Égypte ou d'utiliser quelquefois du polyester. ou alors importer du fil de Burkina Faso, ce qui ralentit beaucoup la production. En fait.
Pour redynamiser le secteur, les nouvelles autorités ont relancé en juillet une ancienne usine de production de textiles dans la région de Kaolack, dans le centre. Elles ont également récemment exprimé leur volonté d'interdire l'importation de la friperie, un business qui fait tout de même travailler de nombreux Sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le 59e Super Bowl, le championnat du football américain, se joue ce dimanche 9 février à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Il opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles. Au-delà de l'aspect sportif, le Super Bowl est un événement qui mobilise des milliers de personnes et tout le monde y fait des affaires. Pour en parler, Georges Léonard Sagnou a joint Louis Yves Nkuka, un Congolais amateur du Super Bowl à Fayetteville, en Pennsylvanie.
Le Super Bowl, c'est un grand événement pour le peuple américain, pour la nation. En fait, c'est la finale du championnat national de football américain. Le football américain qui est évidemment différent du football européen où on court avec le ballon et le football américain, on court avec le ballon dans les mains. Un peu genre du rugby, quoi, mais avec des règles différentes.
Et cette finale oppose deux grandes équipes, les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles.
Exactement. Quand on arrive au niveau du Super Bowl, après des éliminatoires et les championnats réglementaires, on est spécialement une grande équipe, une très grande équipe. Donc, les Kansas City Chiefs de Kansas City, comme je l'ai dit, et les Eagles de Philadelphie qui sont dans mon état de la Pennsylvanie. Donc, je suis derrière les Eagles. Go Eagles!
On va préciser que les deux dernières éditions ont été remportées par les Kansas City Chiefs.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les Kansas City Chiefs est en ce moment en très bonne forme, en très bonne position. Pas moins aussi les Eagles de Philadelphie. Généralement, quand la tradition, en fait peut-être pas la tradition, mais l'expérience généralement a prouvé que une équipe, quand elle arrive au Super Bowl, ça veut dire que c'est une très forte équipe, et la composition de l'équipe reste pratiquement la même pendant quelques années, avant que les sportifs, avant que les joueurs puissent prendre de l'âge et de retraite, et renouveler l'équipe qui reprend à un niveau différent. Donc généralement, quand on arrive au Super Bowl, on est une équipe solide et on peut y parvenir quelques années de suite, comme le cas de Kansas City qui est au Super Bowl depuis 3 ans pratiquement, et ils l'ont remporté les 2 dernières années aussi.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des retombées économiques et pour les joueurs et pour l'État qui accueille, et surtout la ville de New Orleans qui a été très éprouvée récemment suite à une attaque terroriste?
Oui, c'est vrai. On a été attristé un peu par quelques événements terroristes au New Orleans, malheureusement, mais cela n'empêche que le Super Bowl se déroule au New Orleans, dans la ville, la grande ville de la Louisiane. Pour ce qui est de l'impact économique, le Super Bowl a un impact économique très significatif. Aujourd'hui, mon cher Georges, si tu fais une réservation pour dimanche à New Orleans, je suis sûr que ce serait peut-être mieux que tu amènes une tente. Les hôtels seront super, super pleins. Les restaurants, les commerces locaux. Donc, il y a déjà cet impact-là. Par exemple, le Super Bowl de l'année passée qui s'est déroulé à Las Vegas a généré un impact économique de plus d'un milliard de dollars, enfin estimé à $1 milliard. Donc c'est sûr que celui de cette année, de dimanche prochain, régénérera un peu plus.
C'était Louis-Yves Nkuka, fan de football américain. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.